son discours se voulait une invitation à un dialogue franc et sincère dans le respect mutuel. En fait de dialogue, le pape Benoît XVI aurait plutôt ranimé la guerre des religions à l'occasion de sa conférence de Ratisbonne. Interroger la capacité de l'islam à entendre la raison et pour cela se référer à un texte du Moyen-Âge encore imprégné de l'esprit des croisades et suggérer par citation interposée que l'islam serait prédisposé à la violence justement parce que réfractaire à la raison. L'intervention a été, on a pu le constater, très mal reçue dans le monde musulman, surtout venant de la plus haute autorité de la chrétienté et dans une période de malaise de l'identité islamique. Un an à peine après l'affaire des caricatures, le souverain pontife aurait-il oublié l'extrême sensibilité des musulmans quant aux amalgames, voire aux critiques, a fortiori celles venues de l'Occident ? Maladresse, dérapage contrôlé ou provocation, la question n'est pas anodine. C'est peut-être le dialogue des religions qui est en jeu. Est-il toujours une priorité pour le Vatican sous Benoît XVI ? Et comment éviter désormais qu'il ne laisse place à un dialogue de sourds, voire à deux monologues ne se rejoignant jamais ? Le dialogue se faisant à deux, l'islam ou les musulmans doivent eux aussi reconquérir la parole et préférer sans doute l'argumentation à l'indignation, la raison à la passion, dirait Benoît XVI. C'est donc autour de cette polémique suscitée par le pape que nous parlons aujourd'hui avec Mohamed Harkoun, historien, islamologue, philosophe, professeur émérite à la Sorbonne, et Olivier Abel, également philosophe, professeur d'éthique à l'Institut protestant de théologie à Paris. Bonjour à tous les deux et merci d'être avec nous.
Bonjour. Bonjour.
Avant d'entrer dans le vif de la discussion, je vous propose de revenir sur ce discours prononcé à l'université de Ratisbonne. Il s'agissait d'une réflexion sur le rapport entre foi et raison, s'appuyant sur des citations d'un empereur byzantin du XIVe siècle. Ce ne sont pas les propos du pape, mais ces citations précisément qui ont provoqué la colère du monde musulman. Alors, quelle exégèse peut-on faire de ce discours, Olivier Abel ?
Pour moi, c'est vraiment d'abord un discours qui règle des comptes à l'intérieur de la tradition occidentale, c'est-à-dire que ce à quoi il s'attaque, c'est à une sorte de déshellénisation de l'Occident. Comment l'Occident a perdu son Orient, qui est justement cette synthèse de la tradition biblique et de la tradition grecque. Et il lui semble que on a perdu cette racine grecque du logos, de la rationalité du logos, et que c'est l'origine de tous les déboires de l'Occident.
Il critique en même temps les excès de rationalisme et de matérialisme en Occident, l'excès de raison qui exclut la spiritualité.
Oui, mais c'est justement parce que la raison s'est rétrécie, dit-il. La raison s'est, en quelque sorte, s'est coupée de son amplitude, de sa grande amplitude qui était liée justement à la synthèse scolastique de la pensée biblique et de la pensée grecque. C'est parce qu'elle s'est rétrécie uniquement sur un petit champ très limité, très technique, qu'elle a perdu cette amplitude et qu'elle a perdu ce sens de la spiritualité.
Et qui fait que le dialogue, selon lui, est désormais compromis avec les cultures. Alors, ce qui est reproché au pape, c'est d'avoir fait l'amalgame entre islam et violence, et donc entre islam et islamisme. C'est aussi d'avoir pris l'islam comme contre-modèle pour faire une apologie du christianisme comme religion compatible avec la raison, ce qui expliquerait, selon lui, qu'il n'aurait pas besoin de la violence pour s'imposer. Le christianisme, religion pacifique, plus portée vers la raison que l'islam, l'historien que vous êtes ne peut que réagir à de tels arguments, Mohamed Harkoun.
Ah, moi, je suis presque heureux de cette intervention parce que elle ramasse tous les lieux communs, aussi bien de la pensée religieuse théologique chrétienne que de la pensée rationaliste en général, telle qu'elle s'est développée depuis la modernité. Donc, pour moi, elle donne une occasion, maintenant que les médias consentent à faire place à un tel débat, parce qu'autrement, si ce n'était pas le pape, la théologie, personne ne s'en occupe, ça ne sert absolument à rien depuis très longtemps. Et voici que les médias ouvrent une petite fenêtre pour parler de ces problèmes. Alors moi, je suis l'auteur d'une critique de la raison islamique publiée depuis 1984. L'idée reste précisément d'une grande actualité. La critique de la raison islamique m'a amené à faire une critique de la raison religieuse en général, sous la forme des trois théologies juives, chrétiennes et musulmanes, qui se sont construites d'abord au Moyen-Âge, le Haut Moyen-Âge, le Moyen-Âge justement d'expression arabe, c'est-à-dire en langue arabe, en un temps du 7e siècle jusqu'au 13e siècle, où la langue arabe était précisément l'expression de la rationalité, aussi bien grecque que de la rationalité des théologies qui ont essayé séparément et en concurrence, en rivalité, avec même une exclusion réciproque, de donner une lecture de la Bible pour les juifs, des évangiles et l'Ancien Testament pour les chrétiens et du Coran pour l'islam. Donc j'ai élargi considérablement l'horizon de la critique. Et le discours du pape s'inscrit dans la reprise de la raison avant tous les apports et toutes les critiques de ce que nous appelons la raison moderne. Et curieusement, il prend appui dès le départ de son discours sur une citation qui est une citation polémique de la part de cet empereur byzantin qui était dans un temps défavorable pour Byzance puisque Constantinople était assiégée déjà par les Turcs et en 1453, Constantinople tombe sous la souveraineté des Ottomans. Donc il faut absolument mettre dans son contexte historique cette citation pour dire qu'elle est très malvenu, intellectuellement parlant et historiquement parlant. Moi, je ne défends aucune religion, je reste historien. Historiquement parlant, on ne peut pas construire un raisonnement comme il l'a fait sur une citation polémique, d'une part, et sur une interprétation du logos, c'est-à-dire de toute la pensée grecque, l'hellénisation, etc., sans quand même prêter attention à tout ce qui s'est fait, tout ce qui s'est dit depuis le XVIIIe siècle, et surtout ce que j'appelle la troisième révolution des Lumières en Europe, c'est tout l'apport des sciences de l'homme et de la société dans les années 60, 80, 90.
Alors vous avez soulevé une question centrale, est-ce que le pape ne s'est pas abrité derrière ces citations pour livrer sa propre opinion?
Il ne faut pas s'en prendre seulement à ce pape-ci. Jean-Paul II a écrit tout un livre, une encyclique, en 95 je crois, il a eu beaucoup de succès avec le titre « Foi et raison » ou « Raison et foi ». Et en ce temps-là, déjà, il était dans cette problématique-là, c'est-à-dire une problématique classique, je dirais pré-moderne.
Oui, oui.
Et encore une fois, je remercie le pape actuel qui a dit ce qu'il a dit. C'est excellent, encore une fois, pour faire rebondir tous les esprits.
Vous pensez également, Olivier Abel, que finalement il n'y a pas de rupture, contrairement à ce que l'on entend ici ou là, entre Benoît XVI et son prédécesseur Jean-Paul II, notamment sur cette question du rapport entre foi et raison?
Oui, là je pense en effet que Mohamed Harkoun a raison, que c'est vraiment ce nœud, ce lien très étroit entre foi et raison qu'affirmait le pape précédent et qu'affirme l'ex-cardinal Ratzinger, qui était quand même d'abord un grand intellectuel.
Oui.
Bien sûr, on peut dire que comme homme politique, il pourrait être plus prudent, mais je crois que c'est vrai, de sortir d'un dialogue, on pourrait dire, enrobé dans les bons sentiments et les gentilles accolades pour poser des vraies questions, c'est certainement très positif.
Ah oui,
certainement,
oui, oui.
La question, c'est justement, il faut analyser la question elle-même qu'il pose, c'est-à-dire, par exemple, sa manière de revendiquer l'héritage de la Grèce et de l'hellénisme chrétien. D'abord, ça exclut les orthodoxes. Enfin, en tout cas, ça ne parle pas des orthodoxes. Et puis, il y a plusieurs hellénismes. Justement, il y a d'abord toute une grande trajectoire de l'hellénisme qui passe par le monde arabo-musulman et qu'il ne faudrait pas oublier. Mais il y a aussi les Lumières, il y a toutes sortes d'hellénismes différents, et d'une certaine manière, même, on peut discuter son hellénisme.
Donc ce qui serait à discuter, c'est la forme de cette intervention, ce sont ces citations sans explication du contexte dans lequel elles s'inscrivent.
Oui,
c'est pas seulement la forme, c'est le fond le plus profond, si je puis dire. C'est le fond de la pensée et le fond de la manière théologique de lire à la fois ce que j'appelle le discours prophétique, pour aller vite, c'est-à-dire Bible, Évangile et Coran, mais je fais remarquer au passage que le Coran reste à l'extérieur de cette continuité. Dans la théologie chrétienne, aussi bien que dans la théologie juive, l'islam reste en dehors, c'est une excroissance qui n'a jamais été intégrée dans un débat ouvert. Un débat qui intéresse l'exercice de la pensée intellectuelle, rationnelle, scientifique aussi, depuis le Moyen-Âge, car il y a eu retrait de cette pensée, retrait de la part de l'islam à partir du XIIIe siècle, autant jusqu'au XIIIe siècle, comme je l'ai dit, il y avait une suprématie à la fois linguistique, c'est en arabe que tout cela se déroule, et aussi intellectuelle dans les commentaires des héritages grecs. Après l'héritage grec, tous les travaux de la philosophie, de la pensée philosophique en contexte islamique et en langue arabe sont tombés complètement en désuétude. Les musulmans s'en sont désintéressés. Et ça, c'est un point d'histoire. Quand le pape dit que l'islam, justement, n'a pas suffisamment accueilli le travail de la raison, sous cette forme-là, je ne suis pas d'accord, parce qu'il ne parle pas de ce dont moi je parle avant. toute cette histoire de plus de 7 siècles. Il semble l'ignorer, ou en tout cas la minimiser, alors qu'il faut absolument en parler. Mais il est vrai historiquement qu'il y a eu retrait de la pensée islamique par rapport à son propre héritage. Ça, c'est un fait important et un fait d'histoire dans l'évolution générale de la rationalité, l'histoire des rationalités plutôt au pluriel, à l'intérieur de la pensée islamique. Car si on continue à se référer à l'âge d'or comme tout le monde le fait, même les Européens, en oubliant le grand trou intellectuel qui s'est creusé entre le 14e siècle, disons, je dirais une date repère pour la raison critique dans l'histoire de la pensée d'expression arabe, c'est 1406, la mort d'Ibn Khaldoun, qui est un grand historien, penseur, critique de l'histoire et du discours historique. Donc là, c'est un point également important que je verse dans le débat. Et donc, cela nous permettrait justement de regarder les réponses actuelles sous un angle un petit peu modeste et surtout critique du point de vue de l'histoire de la pensée. Et cela, même les historiens de la philosophie, loin des débats de théologie, de religion, etc., ont des efforts à faire pour ouvrir cet espace et faire l'histoire de la pensée, justement, dans l'ensemble de l'espace méditerranéen. Car les historiens de la philosophie vont de l'hellénisme jusqu'à nos jours, en passant par-dessus 10 siècles de transmission de l'héritage grec, d'abord en langue syriaque, qui est une langue sémitique, ensuite du syriaque à l'arabe et du grec à l'arabe, à partir du 7e siècle. Voilà l'histoire de la pensée en général dans l'espace méditerranéen. Et alors, c'est parce qu'on ignore ça que le pape lui-même, malgré sa stature et son intérêt pour l'intellect, etc., eh bien voilà, c'est un flagrant délit d'insuffisance d'information, si je puis dire. Tout respect gardé pour la personnalité du pape, bien sûr.
Oui. Alors, cette citation, qui est l'une des citations polémiques, « Montre-moi ce que Mahomet a apporté de nouveau, et tu ne trouveras que des choses méchantes
exactement,
et inhumaines,
comme
son ordre de diffuser par les moyens de l'épée la foi qu'il professait. » Certains musulmans ont été jusqu'à dire que le pape est islamophobe. Olivier Abel, est-ce que ce raccourci possède un semblant de vérité? Est-ce qu'il y a une crainte de l'islam de la part de Benoît XVI qui appelle à revigorer l'affirmation de la foi chrétienne face à un islam s'affirmant sans complexe?
D'abord, historiquement, Charcot a tout à fait raison. C'est faux, il y a eu des siècles de tolérance bien plus grande dans le monde musulman, dans le monde arabe, en Andalousie, bien sûr, c'est très connu, dans le monde ottoman. Le monde ottoman, à l'époque de la révocation de l'édit de Nantes, et d'une tolérance religieuse que l'Europe ne connaît pas à la même époque. Donc je pense qu'il y a une erreur historique. Je pense que l'erreur, elle est aussi une erreur de pensée, au sens, une erreur intellectuelle,
oui.
Comme M. Harkoun vient de le dire.
Oui.
C'est-à-dire qu'il fait des grandes unités un peu simplistes.
Oui.
La pensée grecque, la pensée biblique. Justement, il nous faut davantage compliquer les choses.
Exactement.
Il faut les compliquer. Il faut sortir de ce geste mortifère de chercher les bonnes généalogies, parce que les pères sont aussi les pères d'autres que nous. Les pères grecs, les pères de tout ce que... Et nous sommes aussi les enfants d'autres pères que ceux dont nous portons le nom, si je puis dire. C'est-à-dire que nos traditions actuelles sont mélangées. Nous devons porter ce mélange, je dirais, au niveau d'une critique, d'un esprit de dialogue dans lequel nous sommes capables non seulement de balayer devant nos portes, mais de penser le rapport à la raison, mais aussi notre propre rapport, chacun, à l'irrationnel, à la violence. La violence, nous ne devons pas la dénier et la jeter sur les autres. Nous devons la penser pour nous-mêmes. Chaque tradition a son rapport spécifique à la violence.
Est-ce que le pape n'a pas fait une erreur supplémentaire, c'est de confondre religion et culture, en insistant bien sur le fait que, comme il l'a dit, c'est la rencontre de la foi biblique avec les interrogations de la pensée grecque qui a créé l'Europe. Autrement dit, il dénie toute possibilité pour l'islam, oui, d'accéder à la raison.
Ce qui m'effraie,
Olivier Abel.
Oui, tout à fait. Ce qui m'effraie, du coup, c'est cette vision d'un Occident chrétien, dans lequel finalement c'est une civilisation, c'est la voie romaine de la civilisation, à l'applaudissement, je dirais, de tous les athées dévots qui font les gros bataillons des intellectuels d'aujourd'hui, en fait qui sont des descendants de Maurras. Il y a beaucoup de gens qui applaudissent au discours du pape pour des raisons de culture occidentale, et qui n'ont aucun rapport avec leur propre tradition religieuse, avec leur propre tradition de foi.
Oui, oui.
Ça me semble très grave.
Oui.
Oui, Mohamed Harkoun, vous aussi, vous pensez finalement que le fait de confisquer la raison comme un trait de la culture occidentale, au lieu d'en faire une valeur universelle et de la proposer aux autres, n'alimente pas justement ce choc des civilisations, cette impossibilité du dialogue ?
À partir du moment où on rétrécit le champ d'exercice de ce que j'appelle la raison critique, critique de toutes les formes de rationalité produites par la raison, depuis l'hellénisme d'un côté et depuis la manifestation de ce que les trois religions monothéistes appellent la parole de Dieu, le discours même de Dieu. Voilà, il y a ces deux grands axes constitutifs de la vision des sociétés, la vision de l'homme par l'homme dans les cultures de l'espace méditerranéen. Je tiens à ouvrir cet espace méditerranéen qui, géographiquement, plutôt géo-historiquement, s'étend de l'Indus, englobant l'Iran, l'Afghanistan et bien entendu ce que nous appelons le Maghreb. Cet espace-là a été couvert par cette pensée islamique qui a été un grand médiateur, et pas seulement un médiateur, parce que les philosophes arabes ont fait de la philosophie. Ils n'ont pas simplement transmis, parce que pendant tout le 19e siècle et jusqu'aux années 50, quand je préparais ma thèse dans les années 60, j'avais à combattre cette idée déjà avec mon maître Roger Arnaldez qui vient de nous quitter, qui se contentait de dire que les Arabes ont simplement transmis très imparfaitement l'héritage grec. Non, Avicenne est un penseur à part entière. Averroès est un penseur à part entière en langue arabe. Farabi est un penseur à part entière en langue arabe. Et l'œuvre d'un Razi, englobant justement tout cet héritage de rationalité et de la science grecque, etc., pour commenter le Coran. Voilà un exemple, un monument de travail qui englobe cette pensée circulant dans l'espace méditerranéen. C'est cela qui a été gommé par les historiens eux-mêmes. Ça n'est pas seulement le pape qui le fait. Le pape, il le fait, bon, on peut le comprendre d'une certaine façon, parce que il est dans la théologie, et la théologie reste encore hors de la critique de la raison théologique. Car ce que j'ai fait pour la critique de la raison islamique doit être absolument fait de la même façon et avec la même ouverture sur la critique de la raison juive, enfin, tout de même, et la critique de la raison catholique, orthodoxe, protestante, tant qu'on est enfermé dans ces présentations linéaires et formelles et finalement fermées sur elles-mêmes et, j'irais jusqu'à dire, dogmatiques, eh bien, la pensée d'Occident telle qu'elle s'exerce aujourd'hui face à un islam fondamentaliste qui n'est pas armé du tout pour recevoir, il n'a pas reçu encore tout ce que je suis en train de dire.
Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, que pensez-vous de cette tentation de certains d'opposer l'Occident à l'islam comme l'obscurantisme à l'esprit des croisades? On a pu noter que le pape a été accusé de tenir à peu près le même discours que Zawahiri de la part de grands philosophes que je ne citerai pas.
Non, moi je ne suis pas du tout dans ces eaux-là, absolument pas. Moi, vous voyez, je reste dans quelque chose de solide, d'ouvert, d'infiniment humaniste. Je dirais presque, pour forcer la note, rageusement humaniste. Rageusement parce que nous sommes entourés de toute cette ignorance institutionnalisée. Il faut bien l'appeler ainsi, puisque l'institution la plus forte qui nous montre ses faiblesses dans une intervention qui maintenant est dans le monde entier. C'est le mérite du pape. Moi, je suis heureux de cette intervention du pape. Tout le monde l'a entendu et c'est une plateforme formidable pour toucher les imaginaires qui continuent de faire des anachronismes. Tout l'islam, pas seulement le fondamentalisme, est vu à partir du piédestal d'une modernité qui a complètement libéré l'esprit des racontars des religions, car c'est comme ça qu'on l'a vécu. Alors quand le fondamentalisme vient s'ajouter à 7 siècles de rétrécissement du champ intellectuel dans la pensée islamique, eh bien, évidemment, on regarde l'islam avec cette condescendance ou cette rage de devoir compter avec lui politiquement parce qu'il résiste politiquement.
Quand certains chrétiens, en l'occurrence Benoît XVI, ou certains musulmans d'ailleurs, invoquent le bon équilibre entre foi et raison, est-ce qu'il ne parle pas en réalité d'une raison qui est au service de la foi, Olivia Bell, une raison en tout cas qui n'entrave pas la foi, mais même qui sert la foi?
Oui, c'est une conception romaine. D'ailleurs, moi je ne pense pas que le pape Benoît XVI soit représentatif de l'ensemble des catholicismes, qui sont beaucoup plus complexes, variés que...
Bien sûr. Et
ce discours, j'allais dire, un peu simpliste quand même. Je suis tout à fait d'accord avec M. Harkoun. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de... Bon, politiquement, c'est inquiétant, mais intellectuellement, ce texte, il est un petit peu inquiétant, parce qu'il montre que même une institution aussi forte, aussi solide que le Vatican, peut aller dans des simplifications comme ça.
Exactement.
Mais il faut quand même pas se tromper. Ce qui est visé à travers l'islam, au passage, ce n'est vraiment qu'au passage, c'est ce qu'il appelle les trois vagues de déshellénisation, c'est-à-dire de perte de la pensée grecque, c'est-à-dire la réforme, les lumières et la théologie libérale, et l'actualité, on pourrait dire, du pluralisme et du relativisme des cultures. Voilà ce qu'il a, en tête de turc, si je peux dire, oui. de son discours.
C'est un avertissement aux réformateurs ?
Oui, en fait, en gros, l'idée est la suivante, et c'est une idée intéressante mais discutable, c'est que on a rompu, c'est-à-dire nous réformés, nous protestants, mais nous musulmans, le nous il est très vaste là en fait, cette espèce d'analogie de Dieu avec la raison, avec la rationalité, avec le logos, pour affirmer un Dieu très lointain, transcendant, extérieur, un Dieu qui est tout volonté, on peut dire volonté arbitraire, et non pas rationalité et logos. D'abord c'est très discutable, et en plus, même dans la mesure où c'est vrai, c'est pourtant cette extériorité de Dieu au monde, à la nature, qui est créatrice de la modernité. C'est d'une part cette altérité absolue de Dieu qui a ouvert un rapport respectueux aux autres. Donc les grandes synthèses de la foi et de la raison peuvent être elles-mêmes très totalitaires. Il n'y a qu'une seule raison, qui est la seule vraie, qui est la seule bonne, qui est la seule juste. Et ensuite, j'irais dire, d'un point de vue presque cosmologique, l'extériorité de Dieu à la nature nous donne un rapport au monde qui est un rapport au monde, on pourrait dire, désacralisé. On perd les formes scolastiques, mais on reconquiert des formes scientifiques. Et d'une certaine manière, avec Kant, une séparation des types de vérité, des registres du discours. Il ne faut pas tout mélanger. Le même discours n'est pas en même temps vrai théologiquement, vrai scientifiquement, vrai moralement, politiquement, vrai esthétiquement. Ça n'a pas de sens. Justement, il me semble que cet esprit critique dont parle Mohamed Harkoun, c'est un esprit dans lequel on sépare les registres et dans lequel on fait place à chacun des registres. Et ce qu'il y a derrière le discours du pape, je me demande, dans ce discours sur retrouver la vraie amplitude de la raison, s'il n'y a pas de nouveau ces grandes synthèses de la science et de la religion qui serait aujourd'hui le créationnisme, par exemple.
Aux États-Unis,
mais dont lui-même semble porteur. Et d'une certaine manière, moi je pense très important d'être vigilant dans toutes nos religions, islam compris, à des pseudo-synthèses, qui sont justement des synthèses, à mon avis, tout à fait régressives par rapport à ces progrès de la distinction des registres, qui sont des progrès, à mon avis, non seulement de la raison, mais aussi de la foi.
Alors la crise s'est calmée assez vite sans que le pape ait finalement fait des excuses aux musulmans. Comment expliquer que cette controverse soit retombée aussi vite qu'elle était montée, Mohamed Harkoun ? L'affaire des caricatures avait été beaucoup plus grave et il ne s'agissait là que de dessins d'humoristes. Cette fois-ci, il s'agit de la parole du pape.
Parce qu'elle repose exclusivement sur des émotions. Il nous faut absolument développer une discipline nouvelle aujourd'hui qui s'appellera la grammaire des émotions, pour déchiffrer justement ces éruptions impossibles à contrôler à propos d'un rien qui déclenche des émotions profondes, respectables, parce qu'elles ébranlent les univers entiers sur lesquels les peuples vivent. Et ce sont des peuples qui n'ont aucun recours là où ils vivent, parce qu'il n'y a pas nulle part un enseignement adéquat qui prenne en charge ces émotions comme un donné crucial de notre époque, aussi bien dans cet Occident qui se dit rationaliste, et encore plus, hélas, dans tous les pays qui n'ont pas bénéficié jusqu'ici d'un minimum de contact avec la raison critique. Et ceci, le monde islamique, il faut bien le dire, n'a plus de contact avec la raison critique. Le peu de musulmans qui s'acharnent à essayer de répandre et de donner aux gens un minimum de cette raison critique qui seule peut organiser, orienter, discipliner les réactions émotionnelles, bien, c'est tout à fait insuffisant.
Olivier Abel.
Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Mohamed sur ce point. Il me semble qu'au contraire, aujourd'hui, paradoxalement, nous sommes dans une époque où le monde musulman, dans sa diversité et dans son immensité, est au contraire travaillé par des forces critiques d'une très très grande fécondité. Et notamment le fait des changements de lieu qui, en quelque sorte, obligent les gens, pas seulement intellectuellement, mais j'allais dire concrètement dans leur vie, à voir leur cohérence de leur vie entre les valeurs qu'ils proclament et leurs pratiques concrètes, ne pas reprocher aux autres ce qu'ils ne reprochent pas à eux-mêmes, ce qu'ils ne font pas eux-mêmes pour les autres. Tout ce travail, on peut dire, de la comparaison critique est un travail immense, énorme, très difficile.
Oui,
c'est,
mais
c'est normal qu'il y ait, j'allais dire, quelques
allers-retours.
Voilà, quelques dommages collatéraux, si je peux dire. On exagère toujours les choses qui nous paraissent négatives et il me semble qu'en ce moment, malgré tout, il y a au contraire un immense progrès critique des religions qui ont une capacité d'autocritique, de porter devant la place publique leur propre rapport, je disais tout à l'heure, à la violence. Mais c'est aussi parce que, et là je dis ça contre le discours de Benoît XVI, le logos, c'est pas une raison statique, c'est une parole. Les humains sont originairement en conversation. C'est pas un monologue, c'est une conversation. Et le rapport à Dieu est une conversation, le rapport aux autres hommes est conversation. Et parce que c'est conversation, eh bien d'une certaine manière, nous pouvons nous changer les uns des autres, nous pouvons nous-mêmes être changés par Dieu, nous pouvons changer Dieu. Et en ce sens-là, la tradition musulmane a raison. Le pape cite Ibn Hazm qui dit que Dieu n'est pas tenu par sa propre parole. Oui, Dieu peut changer, et heureusement que Dieu peut changer. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de transformation mutuelle par une parole qui s'échange, par une conversation. Et je pense que nous sommes dans cette conversation. Forcément, cette conversation, elle est dure, elle est difficile, elle est exigeante, mais je pense qu'elle est féconde.
La conversation, c'est précisément le titre de votre dernier livre paru chez Gallimard. Olivier Abel, je vous remercie. Merci également à vous, Mohamed Harkoun. Je signale la réédition 2006 de Humanisme et Islam, publiée chez Vrin.